Philippe Dunoyer prend ses distances avec Calédonie Ensemble. Il annonce le lancement d'un nouveau mouvement politique. Pour lui, la question institutionnelle est durablement dans l'impasse. L'urgence, c'est le quotidien. Un bol d'air pour la Sodil. Le tribunal de commerce laisse jusqu'au 5 juin à la Société d'économie mixte des îles pour apporter des éléments sur ses hôtels. Ils sont soit en procédure de sauvegarde, soit en redressement judiciaire. L'actualité nationale avec un hommage rendu la nuit prochaine à l'adjudant Florian Montorio. Il a été tué au sud Liban. Un deuxième soldat français a perdu la vie dans cette embuscade. Il s'agit du caporal-chef Anicier Girardin qui est mort des suites de ses blessures la nuit dernière. L'actualité sportive avec du football et l'OGC Nice qui rejoint le RC Lens en finale de la Coupe de France. Les Aiglons, tombeurs de Strasbourg, 2-0 ce matin. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomag pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres qui font l'actualité ce midi, un coup d'œil au jeudi de l'économie Radio Rythme Bleu que vous retrouverez à la fin de ce journal. On s'intéressera à la Nouvelle-Calédonie, territoire d'innovation. La semaine dernière, la plateforme Innovation NC a été lancée par le gouvernement pour structurer l'écosystème du territoire. Alors pour parler plus largement d'innovation, de start-up, nous recevrons le président de la French Tech, Atem Belagi, ainsi que Philippe Gadet. Il est gérant de la start-up OPS Insight et Thomas Sever, qui est l'un des gérants de Catamarine. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. L'actualité politique est à 2 mois des élections provinciales. Philippe Dunoyer annonce le lancement d'un nouveau mouvement politique. Il s'agit d'un mouvement ouvert aux citoyens et aux partis politiques qui partagent son constat et son analyse. Et pour lui, l'heure est grave et il y a urgence, Elisabeth Noir.
Plusieurs informations dans cette conférence de presse. C'est d'abord l'officialisation de la prise de distance de Philippe Dunoyer avec Philippe Gomès et donc avec Calédonie Ensemble. On savait qu'il y avait un certain nombre de divergences entre les deux hommes. C'est maintenant assumé par Philippe Dunoyer qui ne se voyait pas participer à une campagne provinciale avec Calédonie Ensemble, un parti auquel il a appartenu pendant 22 ans. Mais ce matin, il se présentait seul face à la presse et il est relativement discret sur ses relations avec son ancien parti et son ancien mentor en annonçant la création de ce nouveau mouvement politique.
Ce nouveau mouvement, il est issu d'une réflexion et surtout d'un constat. Il part aussi de désaccords ou de divergences qui existent aujourd'hui. Certaines sont un peu plus visibles que d'autres entre Philippe Gomès et moi au sein du Parti Calédonie Ensemble, ce qui ne permet pas de poursuivre ou de conduire une campagne provinciale de manière apaisée et construite. Mais surtout, et c'est quand même plutôt là-dessus que je veux insister, il y a un constat qu'il faut faire. Les discussions sur l'avenir institutionnel aujourd'hui sont au point mort. Et il n'y a, selon moi, aucune possibilité qu'un accord émerge avant les élections provinciales.
Philippe Dunoyer se veut sans illusion. Pour lui, les discussions sur l'avenir institutionnel sont dans l'impasse. Il n'y aura pas d'accord politique avant les provinciales, mais même pas, sans doute, avant la fin de l'année 2027. De toute façon, pour lui, le problème n'est pas là. L'urgence, c'est celui de la vie quotidienne des Calédoniens. La santé d'abord, et puis le transport, le coût de la vie. Il agite le spectre d'émeutes de la faim. Et c'est à ces problèmes que veut répondre le nouveau mouvement lancé par Philippe Dunoyer.
C'est un mouvement qui est ouvert à toutes celles et ceux qui ne se sentent pas présentes ou représentés dans d'autres mouvements existants, évidemment, qui partagent le même constat. Ce sont des constats sur un échec actuel des réponses aux urgences économiques et sociales. Ça n'a pas de couleur politique, ça. On peut venir d'où on veut. On peut avoir des opinions divergentes sur d'autres sujets, bien sûr. Il peut y avoir des mouvements, des partis qui ne sont pas nécessairement installés, qui rejoignent cette dynamique. Il peut y avoir, bien sûr, des personnes, des personnalités ou des gens de la société civile, parce qu'il faut aussi se le dire, on a besoin de renouveler nos réflexions avant de parler des candidats. On a besoin d'entendre d'autres personnes, d'autres idées, d'autres formules. Donc c'est ouvert, ça se veut dynamique aussi parce que le temps est assez court. Et ensuite, une fois que la constitution principale des éléments fondateurs de ce mouvement sera avérée, on refera une conférence de presse et on vous présentera ses membres.
Pas de nom encore pour ce nouveau mouvement, pas de personnalité qui s'affiche pour l'instant aux côtés de Philippe Dunoyer, pas de localisation politique non plus. Le mouvement ne sera ni à gauche ni à droite et Philippe Dunoyer récuse le terme de troisième voie en préférant celui de nouvelle offre ou de nouvel espace. Un mode opératoire qui rappelle tout de même singulièrement le lancement en 2004 de la coalition politique de l'Avenir Ensemble par un certain Philippe Gomès. Toujours est-il que ce nouveau mouvement a bien sûr vocation à être présent aux élections provinciales de juin.
Et concernant les élections provinciales, les jeunes s'engagent pour l'union des non-indépendantistes. C'est le titre d'une tribune publiée aujourd'hui par les jeunes républicains calédoniens. Une tribune signée notamment par Kaël Normandon, le secrétaire général des républicains calédoniens et président des jeunes du mouvement. Et il était votre invité ce matin à 7h30, Elisabeth.
Dans cette tribune, les jeunes républicains calédoniens appellent toutes les forces politiques non-indépendantistes à se rassembler derrière Sonia Backès pour les échéances à venir en province sud. Ils défendent le bilan de la présidente de la province et ils affirment que les républicains calédoniens ont imprimé une vision, une méthode et une exigence dans chacune des responsabilités qu'ils ont exercées. Mais surtout, ils insistent sur la force de l'union, celle des partisans de la France, comme le déclare Kaël Normandon.
C'est un appel à l'ensemble des forces non indépendantistes. Vous savez, les républicains calédoniens, dont je suis le secrétaire général, sont membres de la Fédération des loyalistes, avec Génération de Nicolas Mesdorf et le MPC de Gilles Brial. Et nous avons fonctionné depuis plusieurs années sur un système qui marche très bien, c'est l'union. L'union a fonctionné au municipal, l'union a porté des candidats, dont Alcide Ponga et Nicolas Mesdorf, aux législatives. Et nous tenait à cœur de rappeler que c'est toujours l'union qui gagne à la fin. Et donc que chacun de nos partenaires doit aujourd'hui participer à cette union.
Les jeunes républicains calédoniens citent en exemple les victoires majeures obtenues récemment par les loyalistes lors des élections municipales à Païta, à Dimbéa, à Nouméa et au Mont-d'Or. Ce sont pour eux autant de succès qui démontrent qu'ils sont en mesure de convaincre largement les calédoniens lorsqu'ils sont unis, même si cette unité a parfois été mise à mal lors des élections municipales.
Il faut avouer d'abord que la proximité entre des élections municipales et les élections provinciales n'arrange pas les choses. En effet, dans certaines communes, on a pu parfois s'affronter, parfois défaire certains de nos partenaires politiques. Mais malgré tout, aujourd'hui, il faut faire ce que les Calédoniens attendent, c'est-à-dire l'union pour la Calédonie dans la France. Et c'est ça le plus important pour nous. Nous, on est jeunes, on a envie de continuer de vivre dans une Calédonie française ouverte à tous et prospère. Donc il faut que chaque responsable politique mette un peu de son ego de côté. Sonia Backès l'a fait puisqu'elle a proposé un certain nombre d'alternatives pour trouver les équilibres sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est ça ce qui nous tient à cœur aujourd'hui.
Les jeunes républicains calédoniens disent qu'ils savent pouvoir compter sur des partenaires solides et engagés, comme le Rassemblement et tous calédoniens, qui prennent pleinement part à ce combat pour maintenir la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. Une tribune publiée ce matin dans La Voix du Caillou. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview de Kaël Normandon en podcast audio et vidéo sur le site internet d'RRB.
RRB, il est 11h37. Un nouveau sursis pour la Sodil. Les dirigeants de la Sodil étaient devant le tribunal de commerce ce matin. La justice se penche sur les hôtels de la province des Îles. En décembre dernier, la période d'observation de la société qui porte le Ouadraben notamment a été prolongée de 6 mois. L'audience s'est tenue dans un contexte particulier de blocage de l'aérodrome de Houé et donc de tourisme à l'arrêt. Finalement, après une heure d'audience, il a été décidé de laisser quelques semaines à la Sodil pour apporter des éléments complémentaires. Prochaine audience fixée le 5 juin. Dans l'actualité institutionnelle, il a justement été question d'Air Calédonie ce matin avec une séance express pour les élus du Congrès. Ils étaient convoqués en séance publique pour examiner un texte très technique, un projet de délibération maintenant la garantie d'emprunt de la Nouvelle-Calédonie accordée à Air Calédonie dans le cadre de report d'échéance de remboursement d'emprunt de 2 ans. Un texte qui a été adopté à l'unanimité, les précisions d'Alcide Ponga, le président du gouvernement.
C'était une simple formalité avec les élus du Congrès et tout, parce que dans le cadre de la situation de Air Calédonie a négocié avec les poules bancaires un report des échéances pour rembourser les prêts qui ont été faits à l'époque. Ça a été voté à l'unanimité, mais je crois que c'est le conseiller Dougoulé qui l'a dit tout à l'heure, parce qu'il suit ça de près aussi en tant que président de la DANC. La société est quand même dans une situation qui est très, très, très critique. Ça a fait l'objet d'échanges entre le gouvernement et les élus du Congrès aujourd'hui. On s'attelle, on essaye de trouver des solutions. Et voilà, ça fait partie de notre responsabilité. Donc le gouvernement essaiera de tout mettre en œuvre pour pouvoir avancer et puis débloquer la situation assez rapidement.
Et la séance aura duré 1 heure et les débats ont essentiellement tourné autour de la situation d'Aircal. Il n'y a plus de vol avec les îles depuis maintenant plus de 50 jours. Et plusieurs élus, notamment ceux des îles, ont une nouvelle fois demandé au président du gouvernement de revenir sur sa décision de transférer Aircal sur la plateforme de la Tontouta.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Faut-il, selon vous, légaliser les transports maritimes commerciaux de personnes entre les îles et la Grande Terre pour pallier l'absence de dessertes aériennes? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier, 53% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que l'accès à tous les sites miniers de la côte Est, qui est la condition indispensable au retour de la rentabilité de la SLN, sera rétablie entre 2026 et 2027. Ils sont 47% à être d'un avis contraire. Merci pour votre participation et rendez-vous donc demain pour la réponse à la question du jour. Il est 11h passé de 40 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause publicitaire dans cette édition avant de voir toute l'actualité internationale et nationale et on reviendra sur la mort d'un deuxième soldat français au Liban.
Toute l'info en trois lettres, RRB. L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 16 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
Avec You by Kotex, restez ultra connectés. Jusqu'au 8 juin, tentez de remporter un iPhone 17 Pro, un MacBook Air 13 ou des AirPods Max. Pour participer, c'est simple. Il suffit de remplir le formulaire sur jouet.nc. Plus d'infos sur le Facebook Sakebon NC. Règlement complet déposé chez Maître Citrita.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité internationale et l'attaque du Hezbollah contre une position de la FINUL au sud Liban le week-end dernier aura donc tué deux soldats français. Après l'adjudant Florian Montorio, mort sur le coup, Emmanuel Macron annonce le décès du caporal-chef Anicier Girardin des suites de ses blessures. Aujourd'hui, le président de la République salue avec émotion son sacrifice, Cyril de la Morinerie.
Oui, Anicier Girardin était père d'un enfant. Ce soldat originaire de Reims et âgé de 31 ans appartenait au 132e régiment d'infanterie basé à Suippes dans la Marne. Consciencieux, discret, d'une grande fiabilité et d'un savoir-faire remarquable, salue l'état-major dans un communiqué. Anicier Girardin était maître chien depuis 10 ans, spécialisé dans la détection d'explosifs. Le caporal-chef formait un excellent binôme avec son chien Ross et avait participé à plusieurs missions. Leur émoi était parti une première fois au Liban en 2019, puis au Mali en 2022. Le trentenaire est mort de ses blessures après avoir été violemment pris à partie par des miliciens du Hezbollah, embusqués à très courte distance. Anicier Girardin était un soldat chevronné, confirme le colonel à la retraite Père de Jong à Europe 1.
C'est un régiment qui a une très forte expérience dans le domaine du déminage. Ce sont des gens extrêmement expérimentés et qui sont engagés régulièrement sur tous les fronts. La plupart des soldats qui sont actuellement à la FINUL, ils ont été au Mali, ils ont été en Afghanistan. Donc encore une fois, on ne peut pas remettre en cause, si vous voulez, leur technicité.
Emmanuel Macron a salué la mémoire du caporal-chef Anicier Girardin, la nation qui rendra hommage à l'adjudant Florian Montorio, mort dans la même embuscade. Une cérémonie se déroulera ce jeudi à Montauban.
Il avait choisi de mettre son talent, sa jeunesse et son courage au service de son pays, écrit de son côté la ministre des Armées Catherine Vautrin. Sur le terrain au Moyen-Orient, le cessez-le-feu tient sur les deux fronts principaux, l'Iran et le Liban. Des négociations sont prévues demain à Washington entre Beyrouth et Israël au sujet du désarmement du Hezbollah. Discussion bien moins certaine entre les États-Unis et Téhéran, car à ce stade, les deux camps se livrent à une véritable guerre des nerfs. Charles Bouchain pour Europe 1.
Oui, et les États-Unis semblent jouer la montre. Donald Trump n'a pas fixé de date limite pour recevoir une proposition de l'Iran, indique il y a quelques minutes la Maison-Blanche. Quant aux négociations, il juge possible une reprise des discussions avec l'Iran dans les prochaines 36 à 72 heures. C'est en tout cas ce qu'il affirmait plus tôt dans la journée dans un échange de SMS avec le New York Post. De son côté, l'Iran n'a toujours pas réagi officiellement à la prolongation du cessez-le-feu, mais dit ce soir apprécier les efforts du Pakistan pour instaurer la paix. Téhéran exclut de rouvrir le détroit d'Ormuz tant que le blocus américain est toujours en place. La tension reste forte. Deux navires ont été interceptés ce matin par les gardiens de la Révolution. Un autre a été visé par leur tir. Dernier point de crispation, les exécutions en Iran. Donald Trump affirme qu'à sa demande, le régime aurait renoncé à exécuter 8 femmes. La justice iranienne dément son implication et l'accuse en retour de diffuser de fausses informations.
Charles Bouchain pour Europe 1. Et en métropole, pour faire face à la crise énergétique provoquée par cette guerre, le gouvernement met 180 millions d'euros sur la table au mois de mai. Chiffre dévoilé par le ministre des Comptes publics, David Amiel. 180 millions, c'est le total du prolongement des aides sectorielles réservées aux pêcheurs, routiers, agriculteurs et bientôt élargies aux taxis et VTC, mais aussi du dispositif grand rouleur annoncé hier par Sébastien Lecornu, le Premier ministre. Une baisse de 20 centimes en moyenne par litre pour les travailleurs modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Des aides toujours très ciblées, même si 82% des Français réclament de leur côté une mesure plus générale, comme une baisse des taxes sur le carburant. C'est le résultat d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal dit dimanche. Une stratégie donc du gouvernement qui est impopulaire, mais totalement assumée par la porte-parole Maud Bréjon. Elle était l'invitée de la grande interview.
On a aujourd'hui un déficit qu'on doit tenir à 5%. Pourquoi ? Parce que ce qu'on dépense aujourd'hui, c'est de l'argent que les Français, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par les impôts ou par moins d'investissement dans les secteurs publics essentiels que sont encore une fois santé, sécurité, éducation, les Français paieront d'une façon ou d'une autre si on dépense trop aujourd'hui. Encore une fois, on ne lâche pas les Français qui travaillent et notamment les plus modestes. On ne lâche pas les entreprises, je pense aux transporteurs, je pense aux agriculteurs, je pense aux pêcheurs qui ont besoin qu'on les aide pour pouvoir continuer à travailler. Et en même temps, il y a une réalité qui est celle du déficit, qui est celle de la dette. Et donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent du contribuable.
Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui était l'invitée de la grande interview Europe 1 CNews. À un an maintenant de la fin de son mandat, Emmanuel Macron veut accélérer la mise en œuvre de 150 grands projets stratégiques, des chantiers couvrant l'ensemble du spectre industriel dans 63 départements. Et pour mettre un coup d'accélérateur à leur réalisation, le président de la République veut simplifier les démarches sur le modèle de la restauration de Notre-Dame de Paris. Des annonces précisées lors d'un déplacement dans l'Allier la nuit dernière, entre Bain de Foule et Grand Oral, Arthur Delaborde.
Image d'abord d'un président au contact des Français, bain de foule, poignée de main, selfie improvisé à la sortie de la sous-préfecture de Montluçon après un conseil des ministres délocalisé.
Bonjour, ça va ? Vous allez bien ? J'arrive.
Puis en habit de chantier sur le site de la future mine de lithium des Chassières, le président lance officiellement 150 projets stratégiques.
Au fond, c'est la méthode Notre-Dame de Paris. C'est pas compliqué. C'est-à-dire un projet identifié, une chaîne de commandement claire, des gens à qui on rend compte et des délais records qu'on doit tenir. Et donc sur ces 150 grands projets, c'est plus de 70 milliards d'euros d'investissement, c'est 30 000 emplois, c'est 63 départements concernés, c'est en quelque sorte les cathédrales industrielles de l'indépendance française.
Des cathédrales symboles du récit de la décennie Macron que l'Élysée veut imposer. Efficacité, organisation, souveraineté pour réindustrialiser et produire en France.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Il est 11h47, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Peugeot, Subaru, Citroën, Chevrolet, Isuzu et plein d'autres grandes marques automobiles vous donnent rendez-vous les 23, 24, 25 avril prochains pour le Salon du Village Automobile. Le Salon du Village Automobile, c'est vraiment le rendez-vous auto. 11 grandes marques sur un seul site, un grand parc d'occasion, des offres uniques jusqu'à 1 million de francs de remise, de grandes nouveautés à découvrir en exclusivité et nos partenaires financiers pour simplifier vos projets. Animation, jeux, surprises pour toute la famille et 1 million de francs de carburant à gagner. Entrée gratuite, ouverte toute la journée dès 7h30. Le grand Salon du Village Automobile. Automobile, c'est du 23 au 25 avril au PK4 à Nouméa.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Tirage au sort le 30 avril. Valeur totale du lot 1 million de francs. Règlement disponible sur cph.nc ou chez Maître Citrita.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite de votre journal, l'actualité locale avec Nicolas Legrand.
Avec une journée de commémoration hier, la date du 22 avril marque en effet l'anniversaire de l'attaque de la brigade de gendarmerie de Fayaoué. C'est à Ouvéa et c'était il y a 38 ans, le 22 avril 1988, Lionel Sabot.
Oui, une attaque qui avait coûté la vie à 4 gendarmes avant le début de la prise d'otages qui allait se terminer par l'opération Victor. Hier, en fin d'après-midi, deux cérémonies étaient organisées. L'amicale des retraités de la gendarmerie et l'Union nationale des personnels retraités de la gendarmerie se sont retrouvés au mémorial installé à la mairie nord de Dimbéa, cérémonie présidée par le général de brigade Aouchin, commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie.
Ça reste toujours une cérémonie très émouvante parce qu'il s'agit de la mort d'hommes, il s'agit de la mort de nos camarades et l'émotion qui nous étreint, c'est pour tous ceux qui sont tombés. Et puis après, je pensais à notre agent-chef Salou et à notre gendarme Molinari. Et je le disais tout à l'heure, la gendarmerie nationale, pour la patrie, l'honneur et le droit, ça signifie que c'est pour le bien de tous. Puissent ces vies sacrifiées au service de la nation s'avère d'exemple pour l'avenir. Donc nous devons ce devoir de mémoire à tous les anciens, quels qu'ils soient, et à tous les morts de toutes les guerres, d'une manière générale.
La cérémonie organisée à Dimbéa hier s'est déroulée en présence des autorités civiles et militaires, de plusieurs représentants du nouveau conseil municipal de Dimbéa et des porte-drapeaux de très nombreuses associations mémorielles. Jean-Marie Viard est le président de l'Amicale des retraités de la gendarmerie.
C'est une date indélébile. En sortant de gendarmerie, nous avons trois dates indélébiles. Nous avons le 13 février qui est la journée nationale rendant hommage aux morts en service. Le 22 avril ici pour la Calédonie et... Il s'est rajouté il y a 2 ans maintenant, le 15 mai, pour Nicolas Molinari. Ça reste dans nos cœurs. Ce sont des frères d'armes. On ne peut pas les oublier.
Autre cérémonie à Nouméa, cette fois-ci, où les compagnons du devoir de mémoire étaient au mémorial des gendarmes et militaires morts en service commandé, tout près de la place Bir Hakeim. Bernard Godel, le président de l'association.
Pour nous, anciens gendarmes, c'est viscéral, c'est dans le cœur, cette histoire. On n'a pas le droit d'oublier. Et vous savez comme ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est un pays un peu particulier. On voit ce qui s'est passé en 2024, on a encore eu un gendarme de tué. C'est payé cher, les mouvements de révolte. On parle toujours de 4 gendarmes, mais on en oublie qu'il y en a un cinquième qui a été grièvement blessé, qui est mort quelques jours après. C'est nécessaire de le rappeler.
Un propos recueilli hier en fin d'après-midi par Kalinda Boiscouf.
Le monde du sport nautique tente de faire entendre sa voix après les récentes attaques de requins à Nouméa, la première mortelle, on s'en souvient, en février, et la seconde la semaine dernière, Léo Fichou.
Oui, hier après-midi, la Ligue calédonienne de Va et de Canoë-Kayak a relayé sur ses réseaux sociaux la pétition intitulée « Cohabitation de l'homme et du requin en zone urbaine littorale », une initiative qui vise à alerter les autorités, mais aussi à structurer une réflexion de fond sur la sécurité en mer. À l'origine de cette démarche, Jean-Jacques Anonnier, représentant du CTOS au sein du CESE.
C'est de pouvoir disposer d'une étude approfondie sur les tenants et aboutissants, d'où le titre de la pétition. Elle vise 3 objectifs, la sécurité des usagers, l'équilibre biologique du lagon et garantir l'action juridique des autorités publiques. Pour avoir un débat public, il nous faut une étude circonstanciée et détaillée. On s'aperçoit que toutes nos ligues qui ont des activités nautiques sont fortement impactés en termes de pratiques. Mais je crois que la problématique, elle dépasse le monde sportif. Les répercussions sur le mode de vie de la population, et ça a aussi des impacts sur le monde économique, parce que beaucoup de gens vivent autour de la mer, notamment le tourisme.
La pétition intitulée « Cohabitation de l'homme et du requin en zone urbaine littorale » est disponible sur le site internet du CESE. Elle doit atteindre les 400 signatures pour être saisie par les membres du Conseil économique, social et environnemental. Pour l'instant, elle recueille 162 signatures. Et puis, pour rappel, la seconde campagne de prélèvement de requins s'est achevée lundi. Après 4 jours de pêche, 6 spécimens ont été prélevés, 5 requins tigres, 1 requin bulldog.
En bref, l'OPT a réuni son conseil d'administration hier et il a notamment décidé de faire évoluer son offre postale. Face à la baisse de courrier papier et à la progression des usages numériques, l'OPT va lancer la lettre suivie électronique pour l'envoi dématérialisé de documents avec traçabilité de l'envoi à la réception. Autre nouveauté qui nécessitera là l'adoption d'un cadre réglementaire, la lettre recommandée électronique pour des besoins plus formels et sécurisés. Par ailleurs, l'annexe de l'OPT de Moindou va fermer le 1er mai prochain. Une réorganisation liée à la baisse de fréquentation. Elle accueillait une trentaine de clients sur les 2 matinées d'ouverture hebdomadaire. Un distributeur automatique de billets permettra la continuité des services. Et enfin, le salon du village automobile a ouvert ses portes ce matin au PK4 à Nouméa. Pendant 3 jours, les Calédoniens trouveront sur le site de Peugeot et Mercedes 11 grandes marques, avec notamment du matériel d'occasion. Et ils pourront aussi découvrir les nouveautés en exclusivité, mais aussi des animations familiales. L'objectif étant d'animer le marché de l'automobile, a souligné Frédéric Posé, le directeur de CPH.
Bien, l'objectif, c'est déjà d'animer un petit peu le marché automobile, qui est quand même bien compliqué encore. Hein. On est à 2 fois moins de voitures qu'avant la crise. Donc voilà, le marché souffre beaucoup sur l'automobile, aussi bien sur la vente que sur l'après-vente. Donc on voudrait un peu contribuer à animer ce marché, et d'une. Et de deux, bien sûr, l'idée de fête de l'automobile et de la mobilité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur au salon du village, que nous avons au même endroit 11 marques, showroom, puis la prévente, l'occasion. Donc on a vraiment tous les métiers d'automobile réunis au même endroit. Un bel emplacement pour pouvoir faire une fête sympathique. Et puis voilà, on va un petit peu animer tout ça avec 3 jours de jeu, notamment avec cette crise du pétrole, 1 million de carburant à gagner, en partenariat avec tous nos, on va dire, collègues des banques et assurances et autres cabinets de défiscalisation.
Et ce salon du village automobile est donc ouvert de 7h30 à 18h aujourd'hui, demain et samedi de 8h à 17h. Une manifestation qui est aussi relayée dans le Nord à NC Motors Kone. Il est 11h56, on va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive avec Léo Fichou.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Stop aux hôtels classiques et aux petites chambres. À l'hôtel du centre, profitez de studios 3 étoiles de 30 mètres carrés avec vraie cuisine, lave-linge, sèche-linge, parking et wifi gratuit. Hôtel du centre, tout le confort au meilleur rapport qualité-prix. Réservé au 230 700 ou sur www.hôtelducentre.nc.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La fin de votre journal, le sport avec Nicolas Legrand.
Et à la une du football, en métropole, on connaît l'affiche de la finale de la 109e édition de la Coupe de France, Léo Fichou.
Oui, c'est une petite surprise. C'est l'OGC Nice, très mal en point en championnat, qui s'offre le droit de rêver et qui affrontera le RC Lens le 23 mai prochain en finale. Les Aiglons tombeurs ce matin de Strasbourg, 2-0, un doublé d'Eli Wahi. Écoutez l'attaquant niçois, élu homme du match.
Après ces semaines difficiles, c'est vrai que ce genre de moments, on n'a pas l'habitude de les passer, mais c'est vrai que ça fait du bien. C'est vrai que j'ai connu des moments difficiles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus collectif que j'ai envie de passer ce message pour l'équipe, pour le club, parce que on vit des moments compliqués, comme je l'ai déjà dit. C'est vrai que de vivre ce moment, d'aller au Stade de France avec tout ce groupe, tout ce staff, c'est vrai que c'est magnifique.
RC Lens, OGC Nice en finale de la Coupe de France, ce sera à suivre dès 6h le 23 mai prochain.
En football toujours, on signalera que le Paris Saint-Germain et Nantes jouaient un match décalé de la 26e journée de Ligue 1. Les joueurs de la capitale ont écrasé les Canaries, 3-0. Grâce à cette victoire, le PSG conforte sa place de leader avec 4 points d'avance sur les Lensois. Nantes, de son côté, se rapproche petit à petit de la Ligue 2. On parle également de cyclisme avec une nouvelle performance incroyable du jeune Paul Sexas. Le coureur de la formation Decathlon CMA-CGM a remporté la Flèche Wallonne. Il s'est imposé au sommet du mur de Huy et est devenu le plus jeune coureur de l'histoire à remporter cette classique. Paul Sexas qui signe sa 2e victoire de la saison après s'être imposé sur le Tour du Pays Basque. Et puis on termine sur le territoire, on parle encore une fois de sport mécanique après le drift et le rallye. Léo, on parle de motocross.
Oui, puisque samedi en ouverture de la saison, le motoclub de Païta organise une course endurance de 3 heures en duo sur la propriété cheval de la Tamois. 57 pilotes seront au départ de cette épreuve dédiée à Christian Adam de Villiers, grand bénévole du sport moto sur le territoire. Olivier Leroux est le président du motoclub de Païta.
On démarre notre première course pour le motoclub de Païta ce samedi avec un trophée d'endurance au nom de monsieur Christian Adam de Villiers, qui a fait beaucoup pour la moto pendant des années. Je crois qu'il a été président de club pendant plus de 20 ans. Il sera d'ailleurs présent au départ des 3 heures à partir de 12h30. C'est une personne qui a fait énormément pour la moto et à qui on doit rendre un hommage particulier. Quoi. On a à partir de 6h30, 7h30, le contrôle technique. Ben, la catégorie 50-65 qui commence à partir de 7-11 ans, la catégorie 85-11-15 ans, la catégorie moto pour l'endurance, où là on retrouve tous les âges. Et à partir de 12h30, on lance l'endurance de 3 heures par équipe. où là nous avons 21 équipages au total.
Et on signalera que la dernière fois qu'une épreuve d'endurance moto était organisée, c'était en 2017, rendez-vous samedi au motoclub de Païta.